Chapitre 22. Avec ce chapitre, nous arrivons aux dernières scènes de la vie de notre Seigneur. La Pâque n'était pas seulement un témoignage permanent de la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, mais aussi un type du grand sacrifice qui était encore à venir. Maintenant, enfin, le moment crucial approche, et Christ, notre Pâque, va être sacrifié pour nous, précisément au temps de la Pâque. Les chefs religieux complotaient, se demandant comment ils pourraient le mettre à mort, en dépit du fait que beaucoup d'entre le peuple lui étaient favorables. C'est Satan qui leur inspirait cette haine, et ce fut Satan qui leur donna l'instrument pour satisfaire leurs désirs. Jean, dans son évangile, démasque Judas avant la fin. Au chapitre 12, il nous dit que, dévoré de convoitise, il était devenu voleur. Au chapitre 13, il nous dit aussi le moment exact où Satan est entré en lui. Luc relate ce fait terrible d'une façon plus générale, et il montre que le prince des puissances des ténèbres estimait que comploter la mort de Christ était une œuvre d'une importance telle qu'elle ne devait être déléguée à aucune puissance inférieure. Il se chargerait lui-même de l'affaire. Cependant, il entreprit cette tâche pour sa propre ruine. L'accord entre Judas et les chefs religieux fut réglé facilement. Ils étaient dévorés d'envie, et Judas était dévoré de l'amour de l'argent. Depuis bien des siècles, la Pâque était observée avec plus ou moins de fidélité. Elle allait maintenant être observée dans sa pleine signification, pour la dernière fois. En l'espace de 24 heures, sa lumière pâlit sous l'éclat de son antitype lorsque le véritable agneau de Dieu mourut sur la croix. C'est un fait remarquable que la dernière fois que la Pâque fut célébrée dans sa pleine signification, il y avait là, pour y participer, celui qu'il avait institué. L'homme parfait, saint, qui était le compagnon de l'Éternel. Il demande que soit préparée la Pâque, et il décide de l'endroit même où ils devront la manger. Le moment, la manière, l'endroit, tout est fixé par lui. Le choix ne dépend pas des disciples, mais du Seigneur, comme l'indique le verset 9. La préconnaissance du Seigneur se manifeste d'une manière frappante au verset 10. Porter l'eau était la tâche des femmes. Un homme portant une cruche d'eau ne se voyait pas souvent. Cependant, le Seigneur savait qu'il y aurait un homme accomplissant cette action inhabituelle et que Pierre et Jean le rencontreraient au moment où ils entreraient dans la ville. Il savait aussi que le maître de la maison répondrait au message délivré par les disciples au nom du maître. À n'en pas douter, il connaissait le maître comme étant son maître. En d'autres termes, il faisait partie des gens pieux de Jérusalem qui reconnaissaient les droits du Seigneur. Et celui-ci savait comment l'atteindre. Cet homme a eu le privilège de mettre une chambre garnie à la disposition de celui qui n'avait pas de logis à lui, et quand l'heure fut venue, le Seigneur se mit à table avec ses disciples. Dans le récit que donne Luc, la distinction entre le souper de la Pâque et le souper que le Seigneur institua est très claire. Les versets 15 à 18 donnent la Pâque, les versets 19 à 20 donnent la scène. Les paroles du Seigneur quant à la Pâque indiquent que cet ancien ordre de choses arrive à sa fin. Les souffrances du Seigneur signifieraient son accomplissement. Et quand enfin, un résidu d'Israël épargné entrera dans la bénédiction du millénium, ce sera parce qu'il sera à l'abri du sang de Christ. Quant à la coupe, du verset 17, elle ne semble pas avoir fait partie de la Pâque telle que Moïse l'avait instituée, et le Seigneur, manifestement, ne l'a pas bu. Au lieu de cela, il indique que son jour de joie, que symbolise le fruit de la vigne, n'arriverait que dans le royaume à venir. Puis le Seigneur institue son propre souper en mémoire de sa mort, le pain symbolisant son corps et la coupe son sang versé. Le récit en est très bref, et pour en avoir la signification entière, il nous faut lire 1 Corinthiens 10 et 11. « En mémoire de moi », c'est ce sur quoi le Seigneur insiste à ce moment-là. Et en raison de sa longue absence, nous pouvons en comprendre l'importance. À travers les siècles, le souvenir de sa mort nous reste. Témoignage permanent de son amour. Les versets qui suivent, 21 à 27, témoignent de la folie et de la faiblesse trouvées parmi les disciples. La main de celui qui allait livrer le Seigneur était avec lui à table, et il le savait, quoique les autres disciples n'en fussent pas conscients. Il y eut aussi une contestation entre eux, chacun souhaitant la première place, et ceci précisément lorsque leur maître et seigneur allait prendre la dernière place. Tel est, hélas, le cœur de l'homme, même chez les saints. Cela servit pourtant à faire ressortir très clairement la différence fondamentale entre le disciple et le monde. Dans le monde, on fait connaître et on maintient sa grandeur en prenant la place du maître. Pour le chrétien, la grandeur consiste à prendre la place d'un serviteur. Dans ce domaine, Jésus lui-même montre sa prééminence. Peu de paroles sont plus touchantes que celle-ci. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Telle avait été sa vie de grâce en perfection, et telle, en suprême mesure, allait être sa mort. Il est aussi extrêmement touchant de voir comment le Seigneur parle à ses disciples dans les versets 28 à 30. Ils étaient en vérité insensés, et leur esprit était fort éloigné du sien. Pourtant, avec quelle bienveillance il met en lumière ce qu'il y avait de bon en eux. Il lui était fermement attaché. Malgré ses épreuves et, souffrance suprême, sa réjection, ils avaient persévéré avec lui. Cela, ils ne l'oublieraient jamais, et il y aurait une riche récompense dans le royaume. Dans le jour qui vient, il prendra possession du royaume pour son Père, il en prendra possession avec ses saints, et ses disciples auront une place d'honneur très spéciale. À la lumière de cette déclaration pleine de grâce, ils ont dû certainement ressentir combien avait été mesquine et méprisable leur contestation de tout à l'heure quant à une place de préséance. Puissions-nous éprouver de tels sentiments? Ensuite, au verset 31 à 34, vient l'avertissement spécial du Seigneur à Pierre. À ce moment-là, Pierre pensait et agissait selon la chair. Aussi Jésus l'appelle du nom qui était le sien selon la chair, et la répétition de celui-ci traduit l'urgence de son avertissement. La confiance en soi était un trait de son caractère, ainsi que le désir d'une place prééminente, et cela le rend vulnérable aux attaques de Satan. Pourtant, l'intercession du Seigneur l'emporterait. Il y avait là du froment, pas seulement de la balle. Ce froment resterait quand le crible aurait passé. Les quatre versets suivants, 34 à 38, ont été adressés à tous les disciples. Ils devaient rendre témoignage qu'ils avaient eu tout en suffisance comme résultat de sa puissance, quoiqu'ils aient été envoyés sans ressources humaines. Et il leur annonce que sa mort et son départ amèneraient un autre ordre de choses. Les hommes le compteraient parmi les iniques de ce monde, mais les choses qui le concernaient se terminaient dans un autre monde. Il serait élevé au ciel, et ses disciples seraient laissés pour être ses témoins. Ils auraient à reprendre le cours ordinaire de ce monde. Leur réaction à ces paroles montre que, en s'emparant à la lettre d'un seul petit détail, ils risquaient fort de ne pas saisir l'esprit de ce qu'ils disaient. Aussi, pour l'instant, ils n'en parlent plus. Jusqu'à présent, il s'est agi de la manière dont son amour s'est occupé des siens. Maintenant, nous voyons la perfection de son humanité déployée à Gethsémané. Il affronte, à genoux devant le Père, toute l'amertume de cette coupe de jugement qu'il lui faudra boire. Et son entière perfection se montre en ce que, quoique saisi d'angoisse, il se consacre coûte que coûte à l'accomplissement de la volonté de son Père. Luc, seul des évangélistes, nous parle de l'ange qui apparaît pour le fortifier. Cela met en relief la réalité de son humanité, en accord avec le caractère particulier de cet évangile. Pareillement, sa sueur devenant comme des grumeaux de sang n'est mentionnée que dans cet évangile. C'est en communion avec le Père qu'il va connaître l'horreur de ce qui est devant lui. Les dernières scènes débutent au verset 47. Et maintenant, tout est calme et grâce du côté du Seigneur. Tout est confusion et agitation du côté de ses amis, de ses adversaires et même de ses juges. La communion dans le jardin a conduit au calme dans la grandeur de l'épreuve. Judas atteint le comble de l'hypocrisie en trahissant son maître par un baiser. Pierre emploie l'une de ces deux épées que les disciples venaient de mentionner pour un acte de violence vicié dans sa conception et quant à celui contre lequel il est dirigé. Ce que Pierre fait dans sa violence, le Seigneur le défait immédiatement dans sa grâce. Il fallait laisser la violence à la multitude venue avec les épées et les bâtons. C'était leur heure, et l'heure pendant laquelle le pouvoir des ténèbres allait se déployer. Sur ce sombre arrière-plan, le Seigneur déploie sa grâce. Suis maintenant le récit de la chute de Pierre. Le chemin en avait été préparé par le désir qu'il avait eu tout à l'heure de la première place, par sa confiance en soi, puis par son acte de violence. Maintenant, il suit de loin. Il se trouve bientôt parmi les ennemis de son maître. Satan prépare le piège avec une habileté consommée. D'abord la servante, ensuite deux autres personnes affirment qu'ils le reconnaissent, et cela conduit Pierre à des reniements de plus en plus énergiques. Luc pourtant ne nous dit pas comment il se mit à faire des imprécations et à jurer. Cela après tout était accessoire. Le fait principal est qu'il a renié son Seigneur. À ce moment précis, exactement comme Jésus l'avait prédit, le coq chanta, et le Seigneur se tournant regarda Pierre. Ce que ce regard exprima exactement, nous ne pouvons le savoir. Mais il fut si éloquent pour le disciple tombé que celui-ci quitta la compagnie des ennemis de son maître et pleura amèrement. Judas fut rempli de remords, mais nous ne lisons pas qu'il ait pleuré. Les larmes amères de Pierre sont un témoignage que, malgré tout, il aimait vraiment son Seigneur, et que sa foi n'allait pas défaillir. L'efficace de la prière et du regard du Seigneur commençait à se faire sentir. Cet évangile fait comprendre que le procès de Jésus se divise en quatre parties. En premier lieu, il y eut l'interrogatoire devant les principaux sacrificateurs et les scribes, lorsqu'ils cherchaient quelque prétexte plausible pour condamner le Seigneur à mort. Ce récit remplit les derniers versets du chapitre, et il est donné brièvement. On voit clairement pourtant qu'ils condamnèrent Jésus après qu'il eut lui-même confessé nettement qui il était. Ils contestent qu'il soit le Christ. Et la réponse du Seigneur montre qu'ils savaient qu'ils étaient résolus, dans leur incrédulité et leur obstination, à le condamner. Malgré cela, il affirme qu'il est le Fils de l'homme, qui exercera bientôt l'autorité même de Dieu, et cela, il l'interprète comme entraînant aussi sa prétention à être le Fils de Dieu, ce qu'il est en vérité. Et sa réponse, « Vous dites vous-même que je le suis », est un « oui » catégorique. Parce qu'il affirme être le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il le condamne à mort.